Voilà, Père Éric Houellebrecht, bonjour, bienvenue sur Radio Maria France.
Bonjour à tous, bonjour à toute la famille de Radio Maria, à laquelle j'appartiens maintenant, on va dire presque depuis 2 ans, en écoutant régulièrement les émissions. En tout cas, bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Et puis, laissons-nous bénir par l'intercession de la Vierge Marie, par le Seigneur. Bonsoir à tous.
Alors Père, pour faire un petit peu connaissance, avant de commencer ce thème que vous allez développer au long de cette année, est-ce que vous pourriez donc vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ?
Voilà, tout à fait. Bah, écoutez, même si je n'aime pas trop parler de moi, donc je suis obligé de le faire. Hein. Donc je suis prêtre, actuellement donc dans l'archidiocèse de Strasbourg, un très beau diocèse dans lequel j'ai été ordonné et donc incardiné. Je pense que je vais bientôt avoir 48 ans. Je suis originaire d'Alsace par ma famille, mais aussi de Lorraine. Et la destinée ne me vouait pas véritablement au début une vocation sacerdotale, puisque je me préparais donc à faire une carrière juridique, puisque j'ai fait donc des études de droit, notamment en droit international public européen. Et puis un jour a eu lieu l'appel sacerdotal à Marienthal, en Alsace, on pourrait dire au cœur de l'Eucharistie, pendant une messe, donc suscitée, je pense, bien entendu, par la Vierge Marie. Et puis, après mes études de droit, je suis rentré en toute simplicité au grand séminaire universitaire de Strasbourg, où j'ai fait mes études, où j'ai été donc par la suite ordonné prêtre en 2005. En 2009, il y a donc à peu près 11 ans, j'ai rejoint la direction du collège épiscopal Saint-Étienne comme aumônier, puis aussi comme enseignant. Donc j'ai pu avoir la joie d'avoir des jeunes qui allaient de 7 à 22 ans, où je faisais avec pas mal d'heures hein, au niveau du lycée de l'enseignement de théologie catholique. Et puis à partir de 2012, en parallèle, je suis devenu aussi enseignant et aumônier des élèves ingénieurs de l'ECAM, Strasbourg Europe, une école d'ingénieurs, une école catholique des ingénieurs. Et puis depuis 4 ans, j'ai quitté le lycée Saint-Étienne pour prendre en charge la communauté des paroisses de Christ-Roi Saint-Laurent de Bischheim. Un poste curial, être pasteur, être apôtre au milieu des fidèles et de ceux qui ne le sont pas encore. Et puis je continue aussi toujours mon enseignement auprès des élèves ingénieurs de l'ECAM. Donc voilà un petit peu pour me situer.
Alors, Père Éric, on va vous découvrir tout au long de cette année. Alors, on va surtout vous écouter sur cette thématique générale, le dessein bienveillant de Dieu. Alors, Père, je vais vous laisser peut-être présenter, introduire cet enseignement.
Tout à fait. Alors donc, cet enseignement sera à la fois enseignement, mais il sera aussi, si les auditeurs et auditrices le désirent, plus, je l'espère, une sorte de méditation et de causerie qui les encourage, s'ils le désirent, à intervenir pour partager aussi leurs connaissances, voire pour poser leurs questions. Cela ne me gêne absolument pas. Alors pourquoi ce thème ? C'est un thème qui m'habite beaucoup, puisque en fait toutes mes études ont tourné en théologie catholique et dogmatique autour de ce thème, qui est un thème en fait que j'ai découvert par un père dominicain que les sœurs des bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre de Paris avaient longuement connu, le père Marie-Joseph Le Guillou, que je n'ai malheureusement pas connu, puisqu'il est né, je crois, en 1920, il est décédé en 1990, et cette année 1990, c'est l'année où j'ai connu à Marienthal les sœurs de Montmartre. Et donc, dans mes recherches intellectuelles et spirituelles, j'ai découvert dans mon parcours cette pensée absolument remarquable, et j'ai envie de dire éclairante, hein, illuminative, puisque le père Le Guillou, en tant que dominicain, a fondé à Paris, à l'Institut catholique de Paris, le Centre des études œcuméniques. C'était un des meilleurs spécialistes reconnus de son époque, aussi bien du protestantisme, mais surtout de l'Orient chrétien, c'est-à-dire de l'orthodoxie, aussi bien les orthodoxes les plus, j'ai envie de dire, les plus durs, disaient de lui qu'il était le seul prêtre catholique à avoir enfin compris de l'intérieur la pensée orientale, et jusque l'ancien cardinal Ratzinger, Benoît XVI, qui avait dit que le père Le Guillou était véritablement le meilleur spécialiste de l'Orient chrétien comme prêtre catholique. J'ai été aussi saisi d'une pensée qui est véritablement riche, généreuse, où il essayait en quelque sorte de faire tout remonter à un projet de Dieu qu'il appelle avec saint Paul et avec les Écritures, le dessein bienveillant de Dieu, qu'il ramène justement à la théologie du mystère. Alors ça peut peut-être déjà par ces termes faire un tout petit peu peur à certaines ou certains auditeurs. Alors attention, le mystère, comme on le verra peut-être dans quelques minutes ou à une autre émission, le mystère c'est justement dans la théologie ou plutôt dans la Bible, ou surtout dans la Révélation, quelque chose, une réalité qui n'est justement plus mystérieuse, mais justement un dessein, un projet qui est totalement révélé par le Christ pour pouvoir être compris par les plus simples. Et c'est ça qui m'avait saisi en fin d'adolescence, c'est-à-dire de voir une théologie, j'avoue aujourd'hui, une théologie qui est quand même compliquée, puisque nous parlerons quand même de ce qu'on appellera plus tard l'élection, de la prédestination, vous voyez, tous des termes qui font un tout petit peu frémir ou qui font un petit peu peur dans le climat général des chrétiens, notamment même dans le dialogue œcuménique. Et le père Le Guillot disait, il faut que toute la théologie essaye de rendre compte de sa simplicité, sans être obligatoirement simpliste. Une théologie doit être faite pour tous, elle doit être faite pour les simples, c'est-à-dire pour les plus intelligents comme les plus simples, car au regard de Dieu, ce que nous avons à être, c'est d'être des enfants de Dieu afin d'accéder au royaume du Seigneur. Donc, j'étais vraiment marqué par une théologie vraiment profonde, une théologie qui est liée avant tout à une pensée, qui est une pensée priante, c'est-à-dire pour moi, comme pour le père Le Guillot, et bien d'autres bien entendu, puisque le père Le Guillot c'est celui qui est un des représentants de ce qu'on a appelé après le Concile Vatican II et le synode de 71 sur le sacerdoce, un des représentants de ce qu'on appelait la théologie du centre, sans tomber dans des conservatismes ou dans des avancées sans lendemain, avec tout autour de lui, le père Jean-Michel Garrigue, autour de lui ses disciples en fait, le père Letel des Carmes, autour de lui le père Schönborn, devenu archevêque et cardinal de Vienne, des amis qu'il avait, comme le père de Lubac, comme Urs von Balthasar, bref, tous des hommes qui étaient épris des Écritures, épris de la théologie patristique, et qui ont essayé de rendre compte aux hommes de notre temps, je pense vraiment, d'une théologie simple, même si, quand on s'y plonge, on a l'impression que c'est compliqué, mais une théologie qui veut en quelque sorte amener les personnes à aimer Dieu, à s'y accrocher, et en fait à découvrir que toutes nos questions, et c'est ça que je voudrais tout à l'heure évoquer, que toutes nos questions se trouvent dans un lieu de l'Écriture et peuvent y trouver véritablement une réponse en raison même de ce lieu. Alors j'espère que rien que par cela j'ai été un petit peu clair, j'espère que ce n'est pas obscur. Et donc c'était vraiment une petite introduction pour me situer et pour situer un peu le projet que je propose aux auditeurs. Bien entendu, toutes les réflexions que je vais développer par la suite, donc dans les 9 prochaines émissions, ne sont pas simplement liées à la théologie du père Le Guillot, mais bien entendu du père Garrigue, ou bien entendu d'autres richesses que je ne manquerai pas à faire partager aux auditeurs et aux auditrices. Vraiment, mon intérêt, ce n'est pas de donner un bloc monolithique, c'est de proposer des plus que des pistes de réflexion, j'ai envie de dire de bonnes nouvelles, sur différentes thématiques. Alors je peux un tout petit peu déjà les annoncer, je les réannoncerai peut-être tout à l'heure en fin d'émission. Je proposerai en fait aux auditeurs en fait de découvrir en fait des termes qui peuvent peut-être nous faire peur et qui ont en fait des définitions peut-être plus simples qu'on ne le pense. Nous essaierons de découvrir probablement la prochaine émission le thème de l'élection. Et quand on parle de l'élection, ça nous fait penser au peuple élu, une personne qui a été élue, qui a été choisie, et on découvrira tout à l'heure que cette élection est liée en fait à une définition qui est celui de la sainteté. Donc déjà, pour ceux et celles qui se posent des questions du genre de dire s'il y a un peuple élu ou s'il y a des personnes qui ont par exemple une vocation, sont-elles plus aimées que les autres par le Seigneur? Est-ce que le Seigneur se réserverait certains élus et donc en fait il ne serait pas intéressé par d'autres personnes? On a eu tout ce courant de théologie chez certains auteurs spirituels, parfois même certains docteurs de l'Église et des grands noms que j'aime beaucoup, mais qui posent parfois des questions, parce que malheureusement, ils ont été, dans un certain sens, la cause de ce que nous avons connu dans le catholicisme avec le jansénisme, et de l'autre côté, chez nos frères protestants, avec une théologie un peu extrême de la prédestination des élus. Je parlerai bien entendu de la prédestination. Pareil, je pense que beaucoup d'auditeurs ou d'éditrices, si on pose la question de la prédestination, tout de suite, il y aurait éventuellement cette peur ou cette croyance qui se ramène aux fins dernières. Et tout de suite, quand souvent on fait un micro-trottoir, qu'est-ce que c'est la prédestination? Alors les gens répondent facilement, ah oui, c'est peut-être lié à ce que certaines personnes sont déjà destinées à l'enfer. Alors on verra véritablement que toute cette idée ou toute cette croyance n'est même pas présente dans le corpus biblique, puisque la prédestination, nous allons la découvrir tout à l'heure dans l'introduction, elle a uniquement un thème, et c'était d'ailleurs mon thème de théologie qui m'a accompagné dans toutes mes recherches et dans toutes mes thèses de théologie, c'est véritablement le thème de l'adoption filiale, qu'en fait. Donc nous verrons celui de l'élection, la sainteté, la prédestination, l'adoption filiale. Je proposerai aussi une méditation, une réflexion aux auditeurs sur le terme de la bénédiction. Qu'est-ce que veut dire ce terme de bénédiction? Et puis, bien entendu, nous découvrirons aussi la figure du Christ, de la préexistence éternelle du Christ. Nous découvrirons le mystère de l'Église, mais aussi une Église qui est pensée de toute éternité. Lorsque nous parlons de prédestination, d'adoption filiale ou d'éternité, se posera la question qui est souvent celle des fidèles dans des accompagnements spirituels ou dans les confessions, c'est celui de la place de la liberté humaine. Comment je suis libre? Est-ce que je suis prisonnier? Comment cette liberté humaine est véritablement récapitulée, ou on va dire plutôt assumée par le sacrifice du Christ? Donc cela paraît un petit peu des thèmes très compliqués, je n'en dis combien point, mais j'espère et je vous essaye de vous promettre que j'essaierai de vous les présenter de manière audible et claire pour véritablement donner aux plus inquiets ou aux plus interrogateurs toutes les dispositions pour comprendre que le Seigneur est très très juste avec nous et qu'il nous donne sa grâce en toute facilité. Nous verrons aussi dans une autre émission la thématique de l'Esprit-Saint, ou ce que j'appelle les arts de l'Esprit-Saint. Alors les arts au niveau juridique, c'est-à-dire l'Esprit-Saint comme un acompte qui nous est donné pour la vie éternelle. Et donc, bien entendu, nous étudierons en fait la dimension de la vie spirituelle. Puisque nous sommes à Radio Maria, je poserai une émission sur la Vierge Marie dans le dessein bienveillant de Dieu. Et puis, par rapport à tout ce que je viens de citer, je montrerai comment, dès les premiers débuts de l'Église, les deux premiers siècles de l'Église, comment cette foi dans la prédestination à l'adoption filiale a été immédiatement défendue par ce qu'on appelle le donné patristique, c'est-à-dire par les premiers évêques, et surtout le premier d'entre eux, le premier théologien qui fait le pont entre l'Orient et l'Occident, sans le savoir, c'est notre grand évêque et, je pense, docteur de l'Église, saint Irénée de Lyon. Et son thème de la divinisation. Et puis, en raison du Père Le Guillou, je proposerai aux auditeurs une découverte d'un auteur qui m'est cher, c'est un auteur de l'Orient chrétien, saint Maxime le Confesseur, et avec lui, nous étudierons deux thèmes, donc deux émissions, la volonté humaine, comme étant le lieu, je dirais, de notre décision pour notre salut. Et puis un autre thème qui est cher à saint Maxime le Confesseur, c'est celui de la charité. La charité qu'il définit comme étant l'avenir divin de l'homme. C'est-à-dire que la charité, ce n'est pas simplement de la philanthropie, ce n'est pas simplement la petite pièce de monnaie que je vais pouvoir donner en toute discrétion sans me faire voir à une personne qui en a besoin. Mais on va voir que la charité, le concept de charité, c'est véritablement l'Esprit Saint qui vient le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire de notre baptême, de notre confirmation, nous irradier, nous transformer pour que ce qui manque à notre cœur humain soit remplacé par un cœur divin et nous habitue progressivement, progressivement, jour après jour, à commencer à apprendre de la vie du paradis. En d'autres termes, la vie éternelle, dans le dessein bienveillant, ce n'est pas simplement le résultat comptable d'une vie bonne chrétienne qui aurait été menée. La vie éternelle, c'est tout de suite et maintenant que cela commence. Donc voilà, j'ai été un petit peu, peut-être un peu long dans cette introduction, mais au moins je présente en fait toutes des thématiques. Ces thématiques, beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui vont les entendre vont tout de suite comprendre que ce n'est pas simplement des réflexions théologiques qui seraient théoriques, mais je souhaite véritablement que toutes ces thématiques, ils puissent se les approprier de manière pratique, dans leur quotidien, dans leur prière, dans leur réflexion. J'ai envie même de dire aussi dans leur conversion. Et ça, nous en parlerons souvent. Enfin, quand je dis dans leur conversion, c'est aussi dans la mienne, puisque souvent, je le dis à mes paroissiens, quand j'essaie de prêcher, peut-être un peu longuement, ce que je vous prêche, je vous le prêche à vous, mais je le prêche aussi à moi-même. C'est-à-dire que cette étude qui est liée à la prière, qui est liée à la réflexion, c'est toujours le résultat d'un cœur à cœur avec le Christ, dans son Église, et on essaye toujours, comme pasteur et surtout comme apôtre, de faire passer les richesses que le Seigneur nous donne en toute gratuité, comme il nous l'a dit, hein, ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Alors voilà pour mon prologue, et puis bien maintenant je fais une toute petite transition. Je vais donc vous parler en quelque sorte de la base, j'ai envie de dire, du noyau nucléaire de toute cette pensée du dessein bienveillant. Alors pour celles et ceux qui ont eu le temps, donc je vous invite à ouvrir donc votre épître aux Éphésiens, donc voilà, donc de saint Paul apôtre, et de découvrir ce texte. Alors je ne procéderai peut-être pas si longuement les autres émissions, mais je pense que je souhaite vraiment prendre du temps, un tout petit peu avec vous, pour ces 15 minutes ou ces 20 minutes qui nous restent, pour découvrir ce début de cet épître. Alors, Paul commence ainsi, hein, Paul apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles dans le Christ Jésus, grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. C'est le propos introductif. Et puis, commence immédiatement au verset 3, jusqu'au verset 14, ce que l'on appelle, dans l'Église catholique, l'hymne aux Éphésiens. Alors, j'ai envie de dire avec les exégètes, alors je tiens à dire que je ne suis pas exégète, alors s'il y a des prêtres, des fidèles qui sont exégètes, qui en connaissent plus que moi en ce domaine, qu'ils n'hésitent pas à appeler, et non pas pour me corriger, mais surtout pour porter leur lumière aussi aux auditeurs et auditrices, puisque Radio Maria c'est une famille, on est tous en chemin, on découvre tous, mais il n'en demeure pas moins que dans mes études, j'ai dû m'arrêter sur cet épître et étudier ce que nombre d'exégètes allemands et surtout français nous ont proposé pour comprendre cet épître aux Éphésiens. L'hymne aux Éphésiens, c'est donc un chant. Beaucoup d'auditeurs connaissent des hymnes qui sont fabuleuses, hein, qui ont été versés dans la liturgie chrétienne et qui viennent du Nouveau Testament. Tout le monde connaît, je pense, l'hymne aux Philippiens, hein, le Christ Jésus, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il était égalé à Dieu, et voilà, on connaît la suite. On sait que dans le Nouveau Testament, le catholicisme, la liturgie chrétienne a pris du Nouveau Testament énormément de textes pour le mettre dans la liturgie de la messe, ou ce qu'on appelle la liturgie des heures, hein, que ce soit le Magnificat, que ce soit le Cantique de Zacharie, le Cantique de Siméon chaque soir. Et puis, cet hymne aux Éphésiens, vous la trouvez dans la liturgie des heures, généralement, tous les lundis, presque tous les lundis après-midi de l'Église. Vous la trouvez dans la liturgie des Vêpres aussi, aux fêtes essentielles de la Vierge Marie, très souvent à l'Immaculée Conception, très souvent même à l'Assomption. Voilà, donc c'est une hymne qui est vraiment connue, qui est aussi chantée. Alors, je n'ai pas envie de faire œuvre d'enseignement, mais en tout cas, dans mes recherches, j'ai été véritablement saisi par de nombreuses études, notamment les études sur la structure de l'épître aux Éphésiens, notamment d'un jésuite français, le père Grelot, qui, pour lui, considérant cet hymne, nous dit que, dans un langage un tout petit peu moderne, nous qui sommes toujours en train de travailler par Internet, vous savez très bien que par Internet, lorsque nous créons un texte, hein, que nous sommes en train de rédiger un texte, nous pouvons parfois faire des citations. Alors on dit par Internet que nous allons faire un copier collé. Eh bien, selon de nombreux exégètes, de théologiens, cet hymne aux Éphésiens, que l'on trouve donc dans cet épître aux Éphésiens de saint Paul, serait probablement un copier-collé que Paul aurait fait. C'est-à-dire qu'il aurait copié déjà un chant originaire chrétien, qu'il aurait introduit dans cet épître, dont le but de l'épître est de parler de l'histoire du salut, la place du Christ dans ce salut, mais surtout de la place de l'Église dans le plan de Dieu. Et qui dit de l'Église, alors entendez, l'Église, pour saint Paul, pas simplement comme institution hiérarchique comme nous la connaissons aujourd'hui, ou peut-être que les hommes de la rue diraient « Ah oui, l'Église, c'est le pape, les évêques, les prêtres, et puis on a l'impression que les baptisés n'existent plus, mais l'Église, c'est chacun et chacune d'entre nous. L'Église, c'est chacun et chacune d'entre nous, par notre baptême, nous sommes l'Église. » Donc toute la théologie de l'Épître aux Éphésiens, on pourrait dire de cette lettre que Paul adresse aux Éphésiens, et aujourd'hui à travers eux, c'est pour nous, c'est véritablement quelle est la pensée de Dieu, et en fait je rappelle que cette épître, elle est parole de Dieu, donc c'est l'enseignement de Dieu à travers un apôtre, hein. Quelle est la pensée de Dieu sur l'Église, sur l'instrumentalité du Christ dans le salut des hommes. Eh bien, l'hymne qui nous est proposé, c'est un chant des premiers chrétiens qui a justement pour but de répondre à cette question légitime. Alors, je fais tout de suite un petit arrêt sur cela pour vous proposer une réflexion que je proposais dans le temps à mes élèves lycéens, que je propose souvent à mes catéchumènes adultes, en leur disant que je ne suis pas un devin, je ne suis pas un vrai historien de la Bible, donc je m'intéresse aux meilleurs historiens de la Bible, aux meilleurs exégètes. Et qu'est-ce que nous disent les exégètes? Ils nous disent « cette épître, probablement, a été rédigé, publié dans les années 50-52. Alors peu importe la date exacte, si je pense que la résurrection du Christ ou son ascension, ce sont dans les années 29 à 33, nous pouvons dire que la lettre à laquelle nous avons affaire a simplement une vingtaine d'années après l'ascension du Christ. Et si cette lettre a été rédigée 20 ans après, et qu'elle opère en elle-même un copier-coller d'un chant chrétien, ça veut dire que ce chant chrétien préexiste à cette lettre. C'est-à-dire que ce chant ne date pas de 20 ans après l'ascension du Christ, mais il date de beaucoup moins d'années. C'est-à-dire que probablement, c'est un chant qui est connu dans les premières communautés chrétiennes. Donc vous imaginez, 20 ans après l'ascension du Seigneur, où sont les premières communautés chrétiennes? Elles sont essentiellement en Palestine, mais nous savons par l'archéologie et les témoignages des apôtres et du Nouveau Testament qu'il y a en fait un feu de paille de la foi et de la joie de cette annonce. Mais en fait, nous avons un chant qui est un des premiers chants chrétiens, sinon, au risque de me faire corriger par d'autres confrères hein, qui voient plus clair que moi, sinon le premier chant chrétien. Donc nous avons dans cet épître aux Éphésiens, et grâce à l'Église catholique qui le reprend dans de nombreuses liturgies, nous avons un chant qui est chanté par les premiers chrétiens, et peut-être eux, ceux et celles qui ont vu le Christ mort et ressuscité, qui l'ont entendu, qui l'ont, comme dirait saint Paul, comme le dit saint Jean et saint Pierre, qui l'ont entendu, qui l'ont vu, qui l'ont touché, voyez. Et je crois que lorsque l'on est vraiment attentif à cet hymne, on ne peut qu'en être séduit. Alors je vous propose maintenant de la lire ensemble, ou de l'écouter pour ceux qui n'ont pas leur Bible. J'ai devant moi une Bible du chanoine Crampon, je ne fais pas du tout œuvre d'idéologie, je pense que toutes les traductions sont, non pas, mais elles sont très intéressantes. J'avais fait une fois une étude en maîtrise de théologie sur la comparaison de 4 traductions françaises de ce texte. Tellement il est riche et tellement les traductions sont... traduire, c'est souvent dit trahir, mais c'est pas souvent facile de proposer une juste traduction. Donc, quelle que soit votre Bible, c'est-à-dire la Bible de Jérusalem, qui aujourd'hui propose une traduction intéressante, celle de la Tob, que je trouve à ce niveau-là très, très, très bonne, mais aussi celle du chanoine Crampon, qui est une vieille traduction, mais qui me paraît la plus juste à titre personnel. Donc voilà, vous pouvez le lire ce texte en fonction de cette traduction. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux en Christ. Il nous a choisis en lui, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints. saint et irréprochable sous son regard, dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Ainsi l'a voulu sa bienveillance, à la louange de sa gloire et de la grâce dont il nous a comblés en son bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes délivrés. En lui, nos fautes sont pardonnées selon la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a prodigué, nous ouvrant à toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il a d'avance arrêté en lui-même pour mener les temps à leur accomplissement. Réunir l'univers entier sous un seul chef, le Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui aussi, nous avons reçu notre part. Suivant le projet de celui qui mène tout au gré de sa volonté, nous avons été prédestinés pour être à la louange de sa gloire ceux qui ont d'avance espéré dans le Christ. En lui encore, vous avez entendu la parole de vérité, l'évangile qui vous sauve. En lui encore, vous avez cru et vous avez été marqués du sceau de l'Esprit promis, l'Esprit Saint, qui est un acompte de notre héritage jusqu'à la délivrance finale où nous en prendrons possession à la louange de sa gloire. Voilà comment se termine le verset 14. Alors, c'est vraiment merveilleux, quelles que soient les traductions que vous avez, le père Grelot, d'autres théologiens, et en tout cas d'autres liturgistes, nous proposent aussi cela comme interprétation. Peut-être que les auditeurs, s'ils en ont envie, pourront peut-être ce soir en faire l'expérience, en gardant ce texte, et en le chantant, ou en le lisant, comme si c'était un chant, où les théologiens et les liturgistes nous disent que le verset 3 serait le refrain de ce chant. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux, dans le Christ. Et les versets qui suivent seraient, je suis prudent, mais je le pense, mais je reste prudent, seraient les refrains, en quelque sorte, de ce chant. Donc si cela vous amuse, ou si cela vous intéresse, vous pouvez vous-même reconstituer ce chant, en quelque sorte, en le lisant, ou en le chantant, ou en le méditant, en faisant alternativement le verset 3, puis le verset 4, puis le verset 3, puis le verset 5, puis le verset 3, puis le verset 6, et puis au fur et à mesure. Alors après, vous avez certains versets qu'il faut par exemple allier, hein, notamment le 8 et 9, ou le 12 et 13, et dans beaucoup de lieux de prière chrétienne, je pense bien entendu aux bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre qui ont adapté ce chant, ou du moins cet hymne, de manière merveilleuse. Il est adapté dans la liturgie, peut-être qu'on peut, je pense, même le télécharger par Internet, et il est vraiment très très bien rendu. En d'autres termes, le refrain est le plus important, c'est-à-dire que le verset 3 se trouve être le propos le plus important. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux en Christ. La première chose que nous découvrons dans ce chant, dans cet hymne, c'est que c'est un chant qui s'adresse directement à la gloire du Père, et non pas du Christ. Alors après, le Christ va être tout le temps présent, mais c'est un chant qui focalise notre cœur, notre pensée, notre regard, nos espérances, notre foi vers le Père. Cela ne doit pas être, on pourrait dire, un gros mot qui, pour nous chrétiens et spécialement catholiques, qui sommes des femmes et des hommes totalement christocentriques, qui enleveraient quelque chose au Christ, bien au contraire. Parce que le Christ, souvenez-vous, dans les évangiles, à chaque fois qu'on lui attribue quelque chose, ou un mérite, ou un miracle, voire même lorsqu'il prie, il ramène tout au Père, à son Abba, à son Papa. Et ça, c'est très intéressant que la foi des origines n'oublie pas, en quelque sorte, ce Dieu qui est Père. Bien entendu, que ce soit du temps des premiers chrétiens jusqu'à aujourd'hui, je vous parle du Père. Je me doute très bien, un, comme chrétien, deux, comme apôtre, comme prêtre, comme accompagnateur spirituel, dans la société dans laquelle nous vivons, avec des problèmes parfois familiaux, des problèmes économiques, des problèmes thérapeutiques, que tout ce message positif vis-à-vis d'un Dieu qui est Père va être ambivalent à partir du moment où nous allons avoir des personnes, des auditeurs, des auditrices qui vont dire « mais oui, mais ce Père, moi, c'est formidable », ou peut-être même d'autres qui pourraient dire éventuellement « moi, je n'ai pas connu de Père », où j'ai eu connu un père qui m'a fait peut-être du mal. Alors vous voyez que cet hymne, si je vous en parle tout de suite, c'est parce que cet hymne répond non seulement à de grandes questions théologiques, à de grandes questions existentielles, et qui, par cette existence de ce contenu que nous avons, peut, selon beaucoup de théologiens, notamment le père Le Guillou, répondre à de nombreuses questions existentielles ou théologiques et spirituelles que nous nous posons. Alors, je vois très bien que le temps passe, et que nous arrivons à 30. Donc, il faudra que dans la prochaine émission, je développe les autres aspects, mais je vais vous en donner, permettez-moi, un simple apéritif. Tous les autres versets ont pour but de dire pourquoi la communauté chrétienne, ou chaque chrétien, ou chaque homme, chaque femme, est invité à bénir Dieu le Père. Alors, bénir, il faudra justement, ça sera le thème peut-être de la troisième émission, faut-il aussi définir le terme bénir ? Qu'est-ce que c'est la bénédiction ? Si je faisais un micro-trottoir, les gens diraient « oui, c'est une sorte de signe du pape ou du prêtre ». Mais la bénédiction, c'est certes un signe, un geste. Mais avant tout, bénir, ça veut dire dire du bien. C'est déjà l'inverse de maudire ou dire du mal. Donc, nous disons du bien de Dieu Père. Pourquoi ? Parce que nous dit ce refrain, parce que lui aussi nous a bénis, c'est-à-dire qu'il a dit du bien, il pense du bien de nous dans les cieux. Et tout ceci, il le fait et il le pense dans le Christ. Et immédiatement après, vous avez les versets qui suivent, j'ai envie de dire, Saint disait aux chrétiens, oui, mais pourquoi vous chantez cela ? Pourquoi vous êtes en train de bénir Dieu le Père ? Eh bien, les chrétiens disent, eh bien, laissez-nous vous répondre, nous allons vous répondre en plusieurs temps. Le premier temps, le verset 4, eh bien, nous lui disons merci, nous le remercions, parce que il nous a choisis en lui, dans le Christ, avant la fondation du monde. Alors j'aimais beaucoup faire réfléchir mes élèves du lycée, qui étaient tous des scientifiques, comme très souvent les personnes qui sont mes étudiants de l'aumônerie de l'ECAM, hein, qui sont des ingénieurs, et souvent j'aimais leur tendre une perche en leur disant « Pourriez-vous me traduire dans la langue de 2020, dans une langue scientifique, selon vous, comment nous pourrions définir, il nous a choisi en lui avant la fondation du monde ?» Alors bien entendu, tous les scientifiques en herbe aiment dire « Ah oui, il nous a choisi en lui avant le Big Bang. » Alors je sais que le Big Bang est un thème scientifique, mais je rappelle quand même que c'est un prêtre, docteur en théologie et docteur en sciences, le chanoine Lemaître, qui est belge, qui a proposé le premier cette terminologie du Big Bang pour dire en fait à un moment donné des origines d'une explosion de lumière en fait. Mais c'est ça qui est très intéressant dans notre langage aujourd'hui. Nous remercions Dieu le Père parce que avant le Big Bang, avant la création du monde, il nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et irréprochables sous son regard dans l'amour. Vous avez ici un thème qui nous retiendra probablement dans la quatrième émission. C'est le choix, c'est-à-dire l'élection en vue de la sainteté. Nous sommes tous élus, choisis pour être saints, mais ce qui est complètement renversant dans notre réflexion d'hommes ou de femmes de foi, mais aussi imaginez pour des agnostiques, pour des athées, pour des hommes, on va dire, bienveillants. Tout, il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde, avant le Big Bang. C'est-à-dire que chacun et chacune d'entre nous est le fruit d'une pensée particulière. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Et avant même ce Big Bang, chacun et chacune d'entre nous, qui avons été désirés par nos parents, et tenez-vous bien, même tous ceux et celles qui n'auraient pas été désirés, qui n'auraient pas été voulus, ont été voulus et désirés par Dieu. Avec une question renversante, où certains auraient pu se dire « mais c'est pas possible, saint Paul a fait une erreur ». Avant le Big Bang, le Christ en soi pas, dans un certain sens, n'existait que le Fils éternel de Dieu. Comment se fait-il que Paul, mais vous m'avez compris, comment se fait-il que la parole de Dieu, donc la vérité de Dieu qui s'exprime dans les Écritures, nous dit que le Christ, avant le Big Bang, qui n'est pas donc, qui est le Fils, qui n'est pas encore incarné, est déjà vraiment présent, puisqu'on parle du Christ, c'est-à-dire, est-ce que déjà il y a quelque chose de son humanité qui n'est pas encore produite, qui serait déjà présente? Et alors là, ça pourrait éventuellement nous prendre sur une autre émission, puisque les théologiens répondent bien sûr que oui. Il y avait dans le Christ ce qu'on appelle une réalité théandrique de Dieu et d'une humanité qui n'était pas encore produite, où Dieu, avant le Big Bang, avait déjà un désir de s'incarner. Et alors là, nous tombons tous à la renverse, parce que nous découvrirons le débat qui peut aussi parfois opposer au Moyen-Âge les théologiens dominicains et les théologiens franciscains, avec cette fameuse question: mais s'il n'y avait pas eu la chute originelle d'Adam et Ève, est-ce que la deuxième personne de la Trinité, le Verbe éternel, se serait incarné? Bien entendu, certains disent, à la suite de certains dominicains, absolument pas, il s'est incarné pour nous sauver. Et puis d'autres disent, avec des théologiens comme Saint Bonaventure, même sans la faute des origines, il se serait incarné pour réaliser le projet qu'il avait de toute éternité, celui d'habiter avec nous, pour réaliser son dessein que vous allez découvrir dans le verset 5. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Et ce verset 5, nous le verrons, doit être compris comme étant une coordination avec le verset 4, c'est-à-dire c'est le 4 et le 5, c'est-à-dire que de toute éternité, avant la fondation du monde, avant le Big Bang, Dieu avait un véritable projet, le Père avait un projet, c'était de nous élire, de nous appeler, de nous créer pour que nous soyons à son image, saint et irréprochable, en vue de quoi? D'un seul objectif, de faire de nous des fils. Alors, puisque nous ne sommes pas Dieu, nous ne faisons pas encore partie de la famille de Dieu, il décide de réaliser un acte juridique, excusez-moi, je suis un ancien juriste, hein, un acte juridique que l'on appelle l'adoption, et cette adoption est réalisée par l'acte juridique, entendez-moi, l'acte d'amour, l'acte d'intervention de Dieu dans l'histoire à travers la naissance du Christ, c'est-à-dire à travers son incarnation. Et nous verrons à cause du verset 6 et du verset 7, c'est-à-dire à cause du péché originel, à cause, je dirais, des dérobats de la liberté, à cause de la mort, à cause de la colère, eh bien, il va non seulement devenir le Fils éternel qui nous adopte, hein, le Fils aîné qui nous adopte, mais au même moment, il devient notre frère qui vient pour nous sauver, notre frère rédempteur, et donc à nouveau notre premier frère aîné dans l'ordre de la résurrection et dans l'ordre de la rédemption. J'ose en toute humilité espérer que je suis assez clair, enfin en tout cas Radio Maria me le dira peut-être après en hors antenne. Je laisse les auditeurs véritablement, s'ils le désirent, de découvrir, redécouvrir, de se plonger dans cette épître. La prochaine émission, donc dans un mois, je reprendrai ce fil conducteur pour en développer ce qu'on appellerait les virtualités, c'est-à-dire les grandes lignes de compréhension, c'est-à-dire de toute éternité, Dieu nous veut, Dieu de toute éternité nous adopte pour être des fils et non pas simplement des créatures ou simplement des petits serviteurs, mais véritablement il y a vraiment ce dessein bienveillant, ce dessein positif pour chaque personne, car personne ne peut se dire exclu de l'amour de Dieu.
Père Éric Wolbret, merci beaucoup pour cette très très belle introduction à cet enseignement qui va donc se poursuivre, et on vous retrouve donc, vous l'avez dit, le mois prochain pour la suite.
D'accord. Merci à tous. Bon mois, une union de prière dans cette grande famille de Radio Maria.
En union de prière, Père.
Merci.
Au revoir.